séance est ouverte. Les 20h08. Merci d'être là. Alors, pour plusieurs collègues ici ce soir, c'est probablement la dernière rencontre que vous partagez avec nous. Merci encore une fois de tout le travail que vous avez fait. Pour d'autres, la MRC est autorisée à siéger au cours du mois d'octobre et on aura probablement des nouveaux collègues autour de la table à ce moment-là. C'est vraiment une belle occasion pour souligner encore une fois le travail fait par tous les élus. Qu'ils restent ou qu'ils partent, on vient de passer vraiment 4 belles années. Merci encore tout le monde. Alors, la séance est ouverte. Nous avons un ordre du jour qui vous a été soumis. Est-ce que vous avez des points à ajouter au point affaires nouvelles ou affaires municipales? Sinon, je recevrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Vincent, Isabelle, merci. Aucun point à ajouter? Merci. Le mot de la préfète sera bref parce que, évidemment, j'ai mentionné d'entrée de jeu à quel point j'ai apprécié chacun et chacune d'entre vous, la contribution que vous avez eue et la cohésion qu'on a su créer. Alors, merci beaucoup. Peu importe la suite des choses, l'équipe qu'il y a ici, l'équipe qui est en place, ça a été une drôlement belle équipe. Vous allez me manquer. J'espère en revoir plusieurs de vous. Je sais que certains ont déjà pris leur décision qu'ils ne reviennent pas. Je sais qu'on fait des pressions auprès de certains pour qu'ils reviennent quand même. Il y en a plusieurs qui pourraient porter le surnom de Dominique Michel dans le prochain 4 ans. Bref, on va passer maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août. Mais merci encore à tout le monde. Vous êtes vraiment une formidable équipe. Donc, vous avez le procès-verbal du 25 août. Est-ce que les notes au procès-verbal sont conformes aux discussions qu'on a eues? C'est conforme. Est-ce que je recevrai une proposition pour l'adoption? Yves Ouellette, c'est appuyé de Marco Dénommé. Période de questions de l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres de l'assistance? Alors, merci. On va passer donc au point 6. Suivi des grandes priorités 2021 de la MRC, le projet de la filière hydroélectrique Onimiki. Les discussions vont bon train, comme on a eu l'occasion d'échanger à quelques reprises dernièrement. Les discussions vont bon train. Sachant que l'appel de projet, le décret pour l'appel de projet pourrait être émis sous peu. Cela dit, au point 6.1.1, on a besoin de préparer un dossier technique pour faire évoluer le projet. Et nous avons convenu d'une mécanique de travail. Lynn, est-ce que tu pourrais... relire la résolution, s'il vous plaît.
Oui, ce serait de déléguer au comité administratif la responsabilité d'assurer un suivi serré pour produire un dossier technique et que toute dépense supérieure à 25 000 en lien avec la réalisation de ce mandat soit autorisée par le conseil de la MRC.
Et le budget, peut-être ajouter le point, le budget est déjà prévu, les sommes sont déjà prévues au budget.
Je vais le mettre inconsidérant.
Parfait, excellent. Alors, c'est proposé par Luc Lalonde, c'est appuyé de Bruno Boyer. Est-ce que quelqu'un est contre la proposition?
Oui.
Norm, est-ce que vous voulez inscrire votre dissidence formellement?
Avant ça, je veux dire, qu'on a toujours dit, on ne sait pas pourquoi, une partie de ce projet est dans la municipalité. Québécois a souvent fait des démarches de proposer des étapes de notification. À date, pas rien qui avance. On a demandé les rôles de chaque proponent, les Premières Nations, les MRC. Les réponses, on avait plusieurs, des questionnaires, des inquiétudes. Les réponses ne viennent pas vite. ça prend un plan technique, j'ai toujours dit ça, mais je ne peux pas supporter ça ce soir parce que ça, c'est quelque chose que notre conseil, il y en a des questionnements, des inquiétudes, donc je vais voter contre. Je vais emmener cette proposal à notre, je vais prendre cette résolution à notre conseil et je vais parler avec les autres avant le vote. Merci. Ça, je vote contre.
Parfait. Merci. On enregistre la dissidence. Merci, M. Young.
Aussi, inscrire ma dissidence.
M. Ouellet, parfait.
Je pense qu'on dépense de l'argent avant que... Pour ceux qui étaient là, après les élections de 2017, à la première réunion de travail qu'on avait eue à la Vanik, j'avais dit qu'on serait mieux d'avoir un protocole d'entente avec les partenaires avant d'aller trop loin dans le projet, parce qu'à un moment donné, on va pas mieux. Le mieux, à un moment donné, vous allez être obligé de venir nous voir pour nous demander un permis de construction. Vous allez être obligé de venir nous voir pour passer sur nos terrains pour creuser le tunnel. Puis on n'a pas encore de protocole d'entente. Ça a changé deux fois depuis le début. Au début, on n'arrêtait pas de signer. Là. Alors, c'est pour cette raison-là.
Merci. Vous savez, puis merci de le dire, M. Ouellet. Vous savez qu'on a, on a pris une voie où on travaillait avec une autre communauté autochtone et c'est ce qui actuellement nous retarde dans les discussions. Mais merci d'enregistrer votre dissidence. Alors, le vote, il y a deux personnes qui sont contre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent enregistrer une dissidence? Alors, la proposition est adoptée à la majorité. Merci. Suivi des grandes priorités, le projet d'un système d'incinération des déchets ultimes. Il y a peu de développement sur ce dossier-là. Comme on l'avait dit au mois de juin au mois d'août, on est en attente du rapport du BAP sur ils ont eu un BAP sur les matières résiduelles et les réglementations. Alors, on est en attente des recommandations que le BAP fera sur les systèmes d'incinération des déchets ultimes pour poursuivre l'évolution du dossier sur l'incinérateur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là?
Les réponses sur les attentes.
Le BAP avait jusqu'à la fin octobre déposé son rapport. Suivi des grandes priorités, la proximité des services. On a deux points là-dessus. Un, les services gouvernementaux. On a entendu aujourd'hui et hier ce qui se passe actuellement dans les soins de santé, c'est préoccupant. La pénurie de main-d'œuvre frappe de plein fouet plusieurs des services gouvernementaux, l'enseignement, la santé et tout ça. Alors, c'est évident que c'est une grande préoccupation. L'autre information sur les services de proximité, c'est que la société de développement et on aura un peu plus loin à adopter un mémoire sur l'entrepreneuriat. Et la société de développement a axé son mémoire, la société de développement et la MRC. On a axé notre mémoire sur justement les services de proximité en milieu rural. La particularité de ces services-là dans nos communautés, l'importance qu'ils ont pour nos populations et la difficulté d'être correctement accompagnés en fonction de leur réalité. Alors, vous avez vu copie du mémoire, vous avez pris connaissance des orientations, des recommandations qu'on y fait. C'est sous les deux aspects, les services de proximité. Évidemment, toute la stratégie d'attractivité permet d'attirer des main-d'œuvre compétentes pour répondre, entre autres, à la pénurie de main-d'œuvre dans les services gouvernementaux, mais les services de proximité locaux demeurent une grande priorité pour nous. Alors, on aura à voir un peu plus tard ce soir là, le mémoire de la fait conjointement par la SDT et la MRC. Est-ce qu'il y a des questions sur les services de proximité? Il y a quand même des actions très concrètes, là, la stratégie d'attractivité, mais également lors de la prochaine rencontre, on aura politique d'attraction, de rétention, d'accueil et de rétention des nouvelles populations, des nouveaux Témiscamiens. Alors, on fait des pieds et des mains pour attirer des nouvelles main-d'œuvre, des nouvelles compétences sur le territoire. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à le faire. Il y a quelqu'un qui a parlé d'une roue qui tourne. On se vampirise les uns les autres dans les régions. Là, on va chercher les mêmes ressources sont sollicitées dans toutes les régions en même temps au Québec. Alors, il faut vraiment être en mesure de se démarquer. La stratégie qu'on a mise en place, c'est la bonne, puisqu'on fait connaître qui on est pour attirer les personnes qui se reconnaîtront dans ce que nous sommes. J'ai vu aujourd'hui une publicité de la ville de Roberval, qui cible trois villes, qui cible Saguenay, Rimouski et Saguenay, Rimouski et Québec, pour attirer de la main-d'œuvre chez eux. Et j'ai trouvé c'est très ciblé, leur dynamique est très, très identifiée. On veut des gens parce que c'est pas très loin, puis qu'ils peuvent revenir, mais en même temps, ils se font pas connaître eux. Ils vont attirer de la main-d'œuvre dans des bassins où ils se reconnaissent des similarités. Je pense qu'on a pris la bonne stratégie de faire connaître notre ADN pour attirer de la population. Maintenant, c'est un exercice qui commence. On a déjà marqué un peu des points. Faut dire aussi que l'analyse que Témiscamingue a faite sur l'intérêt de vivre à Témiscamingue, pas juste vivre au Témiscamingue, mais vivre à Témiscamingue, ça a aussi inspiré beaucoup de monde. Dans le contexte, on continue les efforts qu'on a entrepris. Questions, commentaires là-dessus? Alors, on passe au point 7, les enjeux ponctuels. Soins de santé. Alors, juste pour vous dire comme ça, c'est pas le moment de tomber malade, mais plus sérieusement, vous avez entendu les interventions qui ont été faites cette semaine, notamment par le ministre Dubé, qui citait nommément une municipalité de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Sainte-Terre, et qui parlait de mesures de restriction des services. Vous avez eu l'opportunité d'entendre ce qui sera annoncé cette semaine. Vous avez émis des commentaires. Je vous invite à participer à la conférence de presse qui sera donnée ce vendredi à 11h. L'annonce du CISAT sera officialisée. Les informations du CISAT seront officialisées à ce moment-là. Qu'on soit inquiet ou qu'on pousse un soupir de soulagement, il faut être conscient de la fragilité du réseau de la santé actuellement. C'est un réseau extrêmement bousculé. On peut penser que la pandémie est la cause de tous ces problèmes-là. Ce qu'on peut se dire, c'est que la pandémie a accéléré le phénomène, mais que c'était prévisible que c'est vers ce vers quoi on se dirigeait avec les pénuries de main-d'œuvre. Rappelons-nous qu'en 2010, il y a un premier ministre qui disait que ça prendrait dans 5 ans 750 000 professionnels et main-d'œuvre spécialisés pour remplacer la main-d'œuvre qui partait à la retraite. Alors, dans les soins de santé et informés, on suivra le point de presse vendredi. On demeure inquiet. Et comme on l'a souligné un peu plus tôt, on aura une rencontre dès la semaine prochaine avec Mme Roy pour parler des soins de santé, pour entendre ce qui adviendra au Témiscamingue, mais surtout pour se mettre en mode solution avec eux. On peut chialer, là, c'est facile chialer, là, mais ça nous fait du bien peut-être, mais ça n'amène aucune solution. Là, c'est le mode solution et la voie de sortie dans les circonstances. Il y a Norm, tu voulais prendre la parole ou c'est ta main de tantôt?
Merci. Une résolution qu'on a faite une couple de mois passés pour supporter la comité dans notre secteur à propos de la fusion des centres de services. Qu'est-ce qui passe avec ça? On a fait une bonne résolution, on n'a pas attendu à rien. Vendredi, si ça va venir jaser encore, je pense que c'est temps qu'on est on a fini de jaser. Ça prend de l'action. Action, on manque des services ici, ça n'a pas de bon sens. Je pense que pour nous autres à dire que c'est la faute de la pandémie, non. Mettre ça sur la fusion, tout le monde est parti après ça. Quand le gouvernement du Québec a fait la fusion de tous les centres de santé, c'est là où ça a commencé. C'est pas juste la pandémie. Je pense qu'il faut qu'on dise ça clairement à CISAP quand on t'assure avec les autres. Ça prend des actions, pas juste des mots.
Tu as raison. Norm, la résolution qu'on avait prise, c'est pour rapatrier la gouvernance locale ici sur le territoire. La résolution fait son chemin. Maintenant, le CISAT, la réponse, c'était nous, on fonctionne à l'intérieur du paramètre qui nous a été donné. La résolution est allée plus haut, là où elle doit se rendre, c'est-à-dire au niveau du ministre. Actuellement, on a sollicité une rencontre avec le ministre de la Santé. C'est là où est rendue la résolution. Merci de le rappeler. Carmen?
Je ne peux pas passer un commentaire, je vous avoue, puis je ne suis pas dans le mode chiolage parce que je sais très bien qu'actuellement, on est dans une période qu'il faut regarder autre chose que chioler. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis totalement désolée parce que ça, ce n'est pas arrivé hier, cette situation-là.
C'est ça.
Le COVID ne nous a pas aidés. Mais quand on a fusionné tous les établissements de santé, on a réduit, écoute, tout ce qu'on a fait, on a voulu couper des lits, on a voulu diminuer des services. On n'a jamais regardé la partie qui va travailler dans l'avenir, comment ça va se faire. Parce que c'est pas vrai que le 4 000 ou 5 000 qui manque au Québec d'infirmières vient de tomber là, aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait de planification par rapport à la main-d'œuvre. Puis on peut bien tout mettre ça là. Mais ce n'est pas arrivé aujourd'hui. Moi, je suis sincèrement désolée et plus que désolée. Moi, là, les décideurs de l'époque qui n'ont pas mis ce volet-là, parce que c'est un gros paquebot à faire virer. Tu l'as dit, Claire, dans le jeu tantôt, il y a des ordres. On est tous collés les uns aux autres. Personne ne veut lâcher rien. Et décideurs, bien, des fois, c'est plus facile de ne pas toucher à rien que de y aller. On est allé, on a mis des coupures partout. Mais cette pénurie de main-d'œuvre-là, elle ne vient pas me faire croire que c'est arrivé là. Moi, je trouve ça totalement désolant et c'est nos populations qui en payent. Puis, c'est pas du chiolage. C'est juste, je trouve ça tellement désolant qu'un système de santé du Québec qui faisait notre honneur partout au monde, on soit dans un bordel comme ça. Moi, là, je ne peux pas me taire sur ça. Impossible. C'est désolant de voir dans l'État, mais je suis totalement d'accord à faire l'effort pour trouver des solutions. Mais je ne peux pas m'empêcher de le dire.
Ça te fait du bien, hein? Oui. Mais merci, ça nous en fait à tout le monde. Et l'autre élément, c'est qu'on peut reprocher la réforme Barrette, mais je vous rappelle que les pénuries en main-d'œuvre infirmière, ça date d'une autre période. C'est ça, exactement. 98, quand on a voulu faire équilibrer le budget. Alors, dans le contexte, peut-être que les choix qui ont été faits n'étaient pas les plus stratégiquement pensés. D'autres commentaires là-dessus?
Son paquebot, il prend du mazout en étoile, il va rendre. 52% de nos impôts s'en vont en santé. C'est un paquebot que tu as là, quoi.
42 millions. 52% du budget du Québec.
D'accord avec toi, Luc.
Okay. Alors, maintenant qu'on est passé des soins de santé au paquebot, on revient de croisière et on va se parler de COVID. La COVID, l'enjeu ponctuel de la COVID, vous avez pris connaissance de la... On n'avait pas connu, nous, de quatrième vague. On l'a rencontré de plein fouet au début septembre. Et depuis dimanche, il n'y a pas de nouveaux cas qui ont été dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il restait 12 cas dans notre région, 7 au Témiscamingue et 5 dans les autres MRC. Mais on ne voit pas arriver d'autres cas actuellement. Par contre, il reste une chose, c'est qu'on a appris l'importance de la vaccination dans les dernières semaines. On a appris la très grande importance que ça prend et le CISAT continue proposer des cliniques mobiles de vaccination. Je pense que là où elles sont allées, ça a été très apprécié. Le CISAT continue cet exercice-là. Et s'il y a un message qu'on peut passer, c'est la pandémie, passer de situation de pandémie à une situation de maladie endémique. Ça veut dire qu'elle est toujours présente dans notre environnement. Il faut apprendre à vivre avec. Et une des meilleures façons de combattre et de passer à travers cette maladie-là, c'est vraiment la vaccination. On l'avait vu dans certaines périodes où la maladie à vaincre, c'était la souvenir des années 80-90, là, c'était la méningite. À la minute qu'il arrivait un cas de méningite, c'était la et tout le monde se garochait sur le vaccin. Mais c'est la façon d'être le moins affecté possible par la maladie et de pouvoir avoir un fonctionnement le plus organisé possible dans la société. Alors, si vous avez des promotions, de la promotion à faire, c'est sur la vaccination. Je pense que actuellement, la population en Abitibi-Témiscamingue, sur les 200 quelques, puis là, je vais vous dire le chiffre, là, 200 quelques, 207 000 vaccins qui ont été administrés, 217 000 vaccins qui ont été administrés, 105 000 sont pour des doubles doses. Alors, 105 000 personnes, puis on compte que les 2 à 12 ans n'ont pas été, les 0 à 12 ans n'ont pas été vaccinés là-dedans. Là. On a quand même un bon taux, 82 % de deuxième dose qui a été administrée. Ça te rend aussi disponible la troisième dose là, à la population, pour les populations immunosupprimées, pour qui la troisième dose a été recommandée. Alors, on manque toujours d'infirmières. Oui, Mario.
Les gens qui ont le COVID, est-ce qu'ils résident au Témiscamingue ou sont seulement des adhérents du Témiscamingue?
Résident au Témiscamingue.
Okay.
C'est les cas recensés qui sont attribués au Témiscamingue, c'est des personnes dont l'adresse est au Témiscamingue.
De l'adresse au Témiscamingue.
C'est ça, qui ont une adresse et qui sont interpellés pour être à leur domicile.
OK, mais les gens qui l'ont, ça ne veut pas dire qu'ils restent ici comme c'est là. Ça peut être des étudiants, exemple, sont partis.
Non, actuellement, les personnes qui l'avaient, c'est des personnes qui étaient ici, okay. Sur le territoire. Ça va? Alors, enjeu ponctuel, démarche du complexe des eaux profondes, Daniel?
Bon, en fait, c'est la semaine dernière, le 9 septembre, les membres du conseil du complexe des eaux profondes ont rencontré les maires, puis ils ont expliqué ce que le dossier était rendu. Et ce qu'on cherche, le complexe Chartreau, c'est de mettre un projet sur la table, puis aussitôt qu'il y aura un appel de projet qu'on puisse déposer pour le faire. Mais pour ce faire, il nous manquait des sous, ça fait qu'on avait demandé à MRC et aux municipalités s'ils étaient disposés à rajouter des sommes d'argent pour nous aider à finaliser ce qu'on appelle le PFT. Ça fait qu'Adapt Saint-Laurent nous a envoyé une résolution comme quoi qui adhère à notre demande. On avait aussi fait une demande à la MRC ici de remettre des sommes d'argent. Ça fait que ce soir, ben, c'est de voir si on accepte de passer ce que le comité avait demandé. Madame Cardinal, vous avez tout bien expliqué le dossier.
Simplement vous dire que la proposition, évidemment, nous, on fonctionne avec le Fonds Région Ruralité. Et on s'est donné une politique pour accorder les sommes. Alors, le comité du GAM qui applique la politique a été consulté. Et le comité du GAM a une recommandation unanime pour que la MRC alloue un budget provenant du volet 2, projet spéciaux du Fonds Région Ruralité 2021, pour permettre au complexe des eaux profondes de réaliser le PFT, c'est les plans...
Programme de fonctionnement technique,
parce qu'on a des gens qui écoutent. Hein? Ouais. Alors, le programme de fonctionnement technique nécessaire à l'organisme pour poursuivre les étapes qui peuvent mener à la mise en place d'une infrastructure aquatique. Alors, les membres du conseil présents lors de la séance de travail en ont pris connaissance, ont eu l'opportunité de donner leur opinion. Les membres présents ont demandé que le GAM soit consulté sur l'orientation. Le GAM a fait une recommandation positive. Vous avez devant vous la résolution que vous pourriez adopter ce soir à l'effet, suivant tous les considérants que vous avez devant vous, que la MRC alloue un budget de 40 000 $ provenant du volet 2, projet du FRR volet 2, Fonds Région Ruralité 2021, pour finaliser le PFT. Est-ce que j'ai un proposeur? Alexandre, c'est appuyé de Marco. Est-ce que quelqu'un est en désaccord avec la résolution? Je peux faire comme ça. Questions, commentaires là-dessus? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Pas de questions? Oui, M. Drouin.
Ça va vous dire aux gens du comité que Forb aussi a adhéré à la demande. Puis en passant, j'aimerais dire que la présidente qui a envoyé le topo de ça, très bien fait. J'ai eu aucune discussion à faire. Tout le conseil l'avait lu, ça a passé comme du bol en poil.
Message à Mme Cardinal, M. Barrette. Oui, Lynn.
Nous, un exec, on l'a adopté, mais conditionnel à ce que toutes les municipalités embarquent selon le deuxième tableau qui nous serait proposé. Qu'est-ce qui arrive si il y en a une partie qui n'adhère pas? Vous allez avoir un manque à gagner? Ou...
Il va avoir un manque à gagner. On va retourner, je ne sais pas où. Là. On va rechercher des sommes d'argent.
Daniel. Daniel, vous donnerez une grosse table.
C'est ça. On règle ça la semaine prochaine. On devrait attendre tout le monde. Après ça, je vais savoir c'est quoi notre
contribution.
Ouais, c'est ça.
On va avoir des surprises.
Le fait, c'est que tu avais deux colonnes. On l'a envoyé le plus haut. Donc, s'il y a plus qu'à l'heure, tu nous en retournerais un peu quand on voyait pas la nienne.
Merci, merci beaucoup.
On nous avait demandé aussi d'essayer d'aller seulement selon le RFU. Là. On a fait le tableau avec le RFU. Je vous dirais que les sommes sont à peu près identiques. Sauf pour Laniel et Moffett. Vous savez que c'est deux municipalités ou deux secteurs.
Bien, c'est ça que...
Laniel. Aussi que ça représenterait un bon montant, puis Moffett, ça pourrait représenter un montant supérieur à ce qu'on nous a demandé. Là. Mais dans le cas de Saint-Bruno-de-Guigues, il y a à peu près 100 $ de différence. Dans le cas de Duhamel, même, il baisserait par rapport à ce qu'on a demandé. Là, parce que la RFU n'est pas si élevée que ça. Là. Fait qu'on reste encore, nous, avec l'idée que la meilleure méthode, c'est populaire.
Utilisateur. Juste, je vais juste passer un commentaire là, du Amel West. On est fâché quand ils disent pas Témiscamingue dans Abitibi, Témiscamingue. Rouyn-Noranda fait la même remarque. Fait que c'est du Amel West.
Ouais.
Merci, on identifie correctement le village. Oui?
Mais dans le fond, tout ce que j'avais demandé lors de la rencontre, c'est justement d'avoir un comparatif parce que, comme je expliquais à l'ANIR, on n'ira jamais en augmentant la population. Là. Jamais, jamais, jamais. Donc, quand vous faites des tableaux, avec des contributions qui sont calculées sur la population. Là, on est à 167. On n'ira jamais en haut de ça parce que notre population ne va jamais augmenter. Partie comme c'est là, c'est juste des villégiateurs, des gens de l'Ontario qui ne résident pas au Témiscamingue. Donc, ils ne seront jamais calculés dans la population participante.
On pourrait faire une deal.
Hein?
On pourrait faire une deal. On va dire, quand on parle de Laniel, que c'est 1000 personnes.
Non, mais juste nous comparer avec une municipalité qui serait permanente, tu sais, par rapport au nombre de portes qu'on a. Tu sais, c'est que ça soit plus réaliste, plus équitable pour tout le monde.
Stable.
C'est ça.
Alors, la demande est formulée, puis on va en traiter en commission d'aménagement.
Envoyer.
Mais sachez que le comité va prendre toutes les sommes excédentaires.
Oui, c'est sûr, mais pour l'expliquer, ça prend une base de...
On n'a pas envoyé à partir du tableau, là, on va se faire...
Ça sera basé, ça.
En fait, c'est moi qui l'ai.
Oui, envoie-le avant lundi.
C'est direct comme demande. Ben merci. Merci tout le monde pour avoir accepté cette contribution-là. On passe donc au point 8. Merci, Daniel, aussi de la mise à jour. Élection municipale, adoption de la rémunération du personnel électoral. Je vais laisser la parole à Lynn.
Donc, en 2017, on vous avait emmené une proposition pour la rémunération du personnel électoral. Vu qu'on a des élections au niveau de la MRC pour le préfet élu au suffrage universel, il faut aussi avoir du personnel électoral. Donc, depuis 2009, ce qu'on fait, c'est qu'on a une entente avec une municipalité locale qui agit pour la MRC. Donc, on embauche un président d'élection. Cette année, c'est Samy, notre greffier, qui est président d'élection. Et l'ensemble des municipalités, donc ceux qui agissent comme président, deviennent l'adjoint au président au niveau de la MRC. Donc, faut quand même rémunérer le personnel électoral. Donc, c'est pour ça qu'on vous amène une proposition. Donc, on vous a mis dans votre dossier là, les tarifs 2017. Donc, il y a toujours deux colonnes. S'il y a des élections locales et la MRC. Et s'il y a juste des élections au niveau de la MRC. C'est-à-dire que si, mettons, il est dans des municipalités, les sièges sont comblés par acclamation, bien, il va y avoir quand même des élections, mais au niveau de la MRC. Donc, je vous amène trois propositions. Donc, c'est d'indexer les taux de 2017 selon l'IPC des quatre dernières années, ce qui représente une hausse de 6,3%. Ou sinon, une indexation de 10%, ou le troisième, c'est 15%. Si vous me demandez le 10 et le 15, ça vient d'où? Je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas vraiment d'argumentaire pour justifier le 10%. Mais j'en ai jasé lors d'une rencontre avec les DG, puis c'est certain qu'eux autres, ils poussent pour le 15%. Mais si vous regardez les tarifs que ça donne... Dans le contexte actuel, si j'ai une municipalité qui décide de ne pas agir pour la MRC, je ne sais pas comment ça va nous coûter en termes de rémunération parce qu'il n'y en a pas de personne de disponible.
Mais une municipalité pourrait-tu décider de ne pas agir pour la MRC?
Oui. Oui, bien sûr. Oui.
On est en train de donner l'idée, là.
On s'en parle parce qu'il y a d'autres territoires ailleurs au Québec où que c'est compliqué. Ils n'ont pas de collaboration de municipalité locale.
La MRC doit déplacer les équipes électives dans chacune des municipalités.
Oui. Qui coûte pas mal plus cher.
Oui, c'est ça.
Ça coûte beaucoup plus cher. Oui.
Et les municipalités ont demandé 15 les DG oui. ont demandé 15 % lors de la rencontre des DG.
Oui. Puis l'autre élément aussi que je rajoute pour ces élections aussi, ça va être tous les frais reliés à la COVID. Parce que vous le savez, il va y avoir des dispositions des locales, il va falloir que vous achetez du matériel supplémentaire. Mais tout ce qui concerne l'élection de la MRC, ça va être selon les coûts réels. C'est pour ça qu'on s'est accordé une petite marge de manœuvre dans l'enveloppe de la COVID.
Alors, il y avait Marco qui avait levé la main, puis M. Boutillette.
Ouais, moi, je dois être innocent, là, parce que si il dit ça, là, l'élection locale et MRC.
Il n'y a personne qui l'a su.
Si tu as les deux élections, tu as deux fois moins cher que juste celle de la MRC. C'est ça, je ne comprends pas dans tes chiffres.
Ben, parce que tu es obligé de la tenir, l'élection. Tu es obligé de t'assurer qu'il y a une élection dans ta municipalité.
Non, ça c'est correct, ça, mais c'est sûr. Si élection locale et MRC, 224$, ouais. Mais si on a eu des MRC, ils donnent 450$. Juste pas de faire rentrer tout le monde en acclamation, je vais être plus payé.
Oui, mais c'est parce que si, quand il y a des élections dans votre municipalité,
c'est obligé de
vous voulez payer déjà votre personnel électoral.
Ah!
Et bonifié. La partie qui fait MRC.
Ouais, c'est juste MRC.
OK, je me présente plus, c'est payant, ça. Faire travailler aux élections.
On vient de comprendre que le salaire des maires et mairesses est très, très bas. Merci beaucoup. Cela dit, vous avez les trois tableaux. Monsieur Boutillette, excusez.
Est-ce que le personnel qui va être stressé sera vacciné?
Ouais, une bonne question. Une bonne question.
Pour montrer l'exemple.
Comment on informe les gens qui vont se présenter devant ces personnes non vaccinées?
On pourra poser la question?
Ça prend une cote.
Chez nous, ils vont l'être parce qu'on a passé une résolution hier soir à notre conseil que toute personne qui rentre dans notre centre récréatif doit montrer son passeport
vaccinal,
peu importe
où il va.
S'il va à l'aréna, ou s'il va au gym, ou s'il va à une réunion, à la porte en rentrant. Dans ça, tu peux contaminer tout le monde. Là.
Lynn?
Droit de vote, je ne sais pas si tu as le droit de faire ça. Parce que vote en
une discussion à la fois, merci. Vas-y, Lynn.
Exceptionnellement, pour les élections, c'était la politique des élections, c'était que le passeport vaccinal n'était pas requis.
Exact.
Même si la salle, mettons, le propriétaire de la salle la demandait, c'était un statut particulier pour les élections, là. Je me suis trompée.
Là, je pense que, Lynn, on va faire la vérification au niveau du MAMASH, puis de la santé publique, puis on va la partager à tous les maires et mairesses pour cette information-là.
Président d'élection, l'autre bord, il y a une intervention.
Ah, ah bien, merci, Daniel. Une chance. C'est parce que vous tombez dans mon angle mort, hein? Vas-y, Samy.
Pour dire que le directeur général des élections a envoyé un communiqué aujourd'hui pour dire que le passeport vaccinal n'est pas exigé dans les lieux de vote. Et cette orientation s'applique à la fois aux électeurs, aux membres du personnel électoral, ainsi qu'aux candidats, donc les représentants des candidats.
OK, et les représentants des candidats aussi.
Est-ce qu'on va informer les gens qui vont se présenter devant des personnes non vaccinées? Est-ce qu'on peut le décrire quelque part?
On ne saura pas.
C'est si le DGE a émis, parce qu'il a émis un communiqué de presse, toi, tu l'avais pris dans les courriels ou…
Oui, je l'ai vu à mon travail.
À ton travail, OK. On va devoir informer la population de ça, effectivement, mais c'est le travail du DGE.
Mais est-ce que le DGE va dire la personne qui est assise là n'est pas vaccinée?
Il ne peut pas le dire comme ça. Il peut juste dire qu'il n'y a pas d'obligation.
Il n'y a pas d'obligation. Okay.
Sauf que ça aurait été plus facile de désobliger le personnel à être vacciné. Les voteurs, je suis d'accord. Le personnel...
Ça
n'a pas
de sens.
Ah, oui, ça n'en fait pas de sens. On l'exige dans nos écoles. On va l'exiger dans notre système hospitalier même. Puis là, on ne l'exige pas.
Tu veux que le monde
aille voter? Ah, non, mais le personnel, on parle du personnel.
Là, ça, c'est une question sur laquelle nous, on ne peut pas prendre de décision. On va par contre prendre l'information et l'acheminer dans toutes les municipalités. On peut grogner, Luc, tu as raison, on n'est pas content, c'est pas logique, mais on va prendre vraiment toute l'information pour que vous puissiez organiser les choses le plus simplement possible dans vos municipalités. Vincent, tu avais une question?
Ah ben, je veux juste dire, je ne sais pas si c'est pareil un peu dans vos municipalités, mais à cause de ces mesures COVID-là, à cause de toute la situation, c'est très difficile de recruter des travailleurs pour les élections. Je ne sais pas si vous avez eu les mêmes problèmes. Chez nous, pour l'élection municipale, présentement, mon secrétaire d'élection est seul. Avec le président, il n'y a aucun
Très bénévole.
Il n'y a personne. Ceux qui le font d'habitude, à cause de ces mesures-là, n'ont pas voulu y aller. Donc, je pose la question si c'est pareil par chez vous, mais en tout cas, moi, j'étais comme tabarnouche. On fait des appels, mais il n'y a personne qui veut se présenter.
Bien, on va avoir aussi, on va le faire lundi prochain, là, on va voter au gouvernement Feuille d'érable.
Oui.
On va voir comment ça fonctionne. Il y a peut-être des choses qui vont.
Il y avait des gens pour.
Peut-être des gens qui vont être un petit peu moins inquiets après. Oui. Mais je reviens à la demande que j'ai transmise à Lynn, qui va faire les vérifications avec le président d'élection, avec le MAMASH, avec le DGE, puis on vous la partage, l'information. Là, on sait déjà que le DGE s'est prononcé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire à partir du moment où les gens ne sont pas tenus d'être vaccinés? Comment on peut bien faire les choses pour éviter tout risque de contamination?
Il faut avoir un minimum.
Tu sais qui est venu voter?
Dans ton personnel et tout.
Oui. Samy?
Juste pour ajouter qu'il existe déjà un protocole sanitaire qui a été élaboré par les ce protocole sera mis à jour dans les prochains jours afin d'informer tous les présidents d'élections concernant les mesures à prendre dans les locaux qui sont réservés aux élections.
Parfait. Merci. Et on va le faire parvenir. On va faire parvenir à tout le monde.
Excusez-moi. J'insiste sur le fait d'informer les gens, que les gens qui vont les recevoir. Est-ce qu'on peut faire ça?
Moi, je ne peux pas être vacciné.
On peut pas. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas. Est-ce que la publicité est faite par la MRC? Parce que...
Je pense qu'il devrait au minimum avoir une carte qui dit quel personnel...
À l'élection, on n'est pas tenu d'être vacciné.
C'est un non-sens. On demande tout ça partout. Moi, je sais, chez nous, ils seront pas.
Je ne suis pas certaine que c'est à nous de le faire. C'est vraiment la responsabilité du DGE. Là. Puis il y a le DGE qui fait de la promotion. Il y a le MAMASH qui en fait. si jamais c'est pas suffisamment publicisé, on va voir ce que nous, on peut faire. Mais je suis pas certaine que c'est à nous. Je suis même convaincue que c'est pas à nous de le faire. Là. C'est vraiment une condition qui dépend pas de notre décision. Fait que... Mais le DGE fait de la promotion, le ministère en fait. On va quand même faire cheminer l'information pour que ça soit largement diffusé. Alors, on revient au sujet du jour. Quel tarif souhaitez-vous allouer? Oui, Marco?
Moi, je vais avec le...
15 %
ouais. Les vaccinés, 15 % les non-vaccinés.
C'est moi.
Alors, il y a une proposition sur la table d'adopter la grille de rémunération du personnel électoral 2017 plus 15 %. C'est appuyé de Simon Gélina. Marco, Simon, est-ce que quelqu'un est contre? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Oui, Daniel?
En proposition, on dit que toutes les dépenses électorales qui vont être... les dépenses pour la COVID vont être payées aussi.
Oui, il était en bas de mon tableau, mais je ne l'ai pas inscrit dans la résolution, mais ça va être rajouté.
Oui, il était en bas du... effectivement.
Le pire, c'est que c'était celui.
Alors... Étant donné, on passe donc au point Fonds Région Ruralité, rapport de transition. La parole est à Lynn.
Oui, donc, à la dernière séance du Conseil, vous avez adopté le rapport final du Fonds de développement des territoires qui terminait au 31 mars 2020. Là, au niveau du Fonds Région Ruralité, le ministère nous demande d'adopter un rapport pour du 1er avril au 31 décembre 2020, parce qu'après ça, le fonds va tomber aux mêmes années financières que la MRC. Je vais vous dire que ça va être un gros plus, au lieu de chevaucher des enveloppes de pas la même année. Donc, vous aviez le rapport sur la plateforme. Donc, ça serait d'adopter ce rapport-là pour qu'on puisse le soumettre au même âge pour qu'il puisse nous décaisser un pourcentage de l'enveloppe du FAR.
D'accord.
Alors, c'est proposé par Daniel, c'est appuyé de Carmen Côté. Merci.